Dans l'écume des pages, depuis plusieurs numéros, nous couvrons la 9e édition des Assises internationales du roman en partenariat avec la Villa Gilet. Aujourd'hui, vous pourrez réécouter l'enregistrement d'une rencontre avec l'écrivaine Geneviève Brisac, organisée le 28 mai 2015 dans les médiathèques de Rérieux. Geneviève Brisac, déjà connue sur les ondes de Transistor puisqu'elle nous avait accordé une interview dans Il y a une vie après normale, est une femme aux activités variées. Écrivaine, auteure de contes, de nouvelles, d'une pièce de théâtre, d'essais, de romans et aussi éditrice pour la jeunesse à l'école des loisirs, elle a été scénariste pour le cinéma et chroniqueuse littéraire. Son œuvre est parcourue de thèmes qui ne l'ont jamais quittée. L'enfantin, au sens de Pierre Péjut, le féminisme, la lutte, l'engagement et la colère. Mais ces substantifs ne sauraient que décrire une lecture particulière de ses écrits. C'est pourquoi je vous recommande vivement la lecture de son dernier roman, Dans les yeux des autres, paru en 2014 aux éditions de L'Olivier, et son essai La marche du cavalier, paru en 2002, et consacré à des figures d'écrivaines qu'elle admire et veut nous faire connaître.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici dans la bibliothèque de Rérieux en compagnie de Geneviève Brisac et d'un public qui, je n'ose pas être très attentif. Alors Geneviève Brisac, vous avez eu un parcours particulièrement rempli et très divers. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres. Vous avez enseigné quelque temps en Seine-Saint-Denis avant de vous tourner vers l'édition, d'abord chez Gallimard, puis à l'école des loisirs dont on fête en ce moment les 50 ans et où vous êtes donc directrice de collection pour les enfants et les adolescents. On vous doit aussi de nombreux romans, parmi lesquels Petite, publié en 1987 aux éditions de L'Olivier, mais aussi Week-end de chasse à la mer, qui a été prix féminin en 1996. Vous êtes l'auteur donc, de plusieurs autres romans, de nouvelles, de contes, d'une pièce de théâtre. Et vous avez aussi consacré des essais remarquables à des romancières comme Virginia Woolf, Grace Pelly ou Flannery O'Connor, entre autres. On peut rappeler que vous publiez des critiques littéraires, notamment dans Le Monde des Livres, que vous avez été la co-scénariste d'un film de Christophe Honoré, Non, ma fille, tu n'iras pas danser, sorti en 2009. Et votre dernier roman, donc, Dans les yeux des autres, apparu en 2014 aux éditions de L'Olivier. Vous êtes aussi une femme engagée, Geneviève Brisac, depuis 2007. Vous soutenez Bibliothèques sans frontières, une ONG qui vise à faciliter l'accès au savoir dans les pays en développement. Alors, je vais m'arrêter là pour cette énumération et j'aimerais d'abord vous poser une première question. Comment faites-vous pour tout concilier et surtout, qu'est-ce qui vous pousse à vous essayer à tant de domaines, a priori, si différents ?
En fait, ils me lourdent toujours, hein, vous avez compris. Donc, j'essaye un truc, ça ne marche pas, donc je virerai, je passe à autre chose, ça ne marche de nouveau pas, je n'ai pas comme tout le monde. Quoi, finalement. Donc, évidemment, au bout de très longtemps, ça fait un éventail d'activités considérables, enfin accumulées. Non, c'est agréable en même temps. Comme je disais, ça ne pas regarder en arrière, mais plutôt en avant. Et donc je me dis effectivement en vous écoutant ça pèse le sac à dos et est rempli de cailloux quoi. Mais qu'est-ce qui me pousse ben, ça, l'insatisfaction, la curiosité et puis surtout en vérité c'est un petit peu bidon parce que tout ça c'est la même chose. Si vous voulez en fait écrire des articles, lire des livres, c'est la même chose. Enseigner, transmettre sa passion de la lecture en publiant des romans pour adolescents, c'est le même principe. En fait, tout ça, c'est un peu pareil. Donc, c'est un peu pareil. C'est toujours des gens, des livres, des rencontres, des visages, des espoirs déçus, des tentatives ratées, des nouvelles tentatives ratées, des nouvelles tentatives. Vous savez ce que disait Beckett ? Essayer encore, échouer encore, recommencer. C'est tout le monde, quoi.
Alors, au cours de notre dialogue, on va quand même revenir sur, un peu sur ces différentes activités, sur aussi votre admiration pour certaines femmes écrivains et pour vos engagements.
Enfin, certaines femmes écrivains, c'est pas que... Oui, je en fait, il y a, voilà, je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, j'étais à une espèce de manifestation, rencontre du livre et tout ça. Et il y a une petite fille qui est venue me voir et elle m'a dit... Enfin, elle voulait un livre pour enfants, donc une histoire d'Olga. Enfin, elle voulait. Vous savez, pas vraiment comme souvent quand on cherche un livre, elle n'était pas sûre de vouloir, mais elle envisageait de peut-être vouloir. Et donc sa mère m'a dit, mais vous pouvez lui dire, lui expliquer pour, enfin, lui dire quelque chose pour voir si ça va l'intéresser. Et alors, je lui ai dit, je sais pas, est-ce que, par exemple, est-ce que tu es très révoltée? Parce que moi, je suis très révoltée. Et elle m'a dit, oh, moi je suis hyper révoltée. Elle avait 9 ans. Et donc ça, j'ai ressenti une espèce de chaleur, comme ça, de chaleur de la rencontre. Parce qu'en fait, quand on est très révolté, on est toujours assez content de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est très révolté, surtout qu'on se démasque un peu en disant qu'on est révolté. C'est peut-être un peu ridicule aussi. Et donc sa mère lui dit, mais peut-être tu peux dire à la dame pourquoi tu es révoltée. Et là, la petite fille dit, je suis révoltée parce que mon papa est mort. Paf. Et voilà. Et elle se met à pleurer. Et moi, je me mets à pleurer. Enfin, quand même, j'essaye de me tenir, mais tiens. Et puis, donc, moi, je commence à dire, mais justement, les livres, enfin, ce que je pense. Je lui dis, mais en fait, moi aussi, mon papa est mort. Et donc, on a un truc, en plus, il n'y a pas si longtemps. Enfin, bref, on a un truc comme ça, un peu de... Et par exemple, je pense que la première révolte, c'est que ça. C'est... être révolté contre la mort. C'est la première révolte. L'injustice et la mort, l'injustice. Et donc, c'est un gros moteur, hein, parce qu'on est sûr de ne pas être déçu. Hein. Et donc, tout ça pour dire que je suis également, par exemple, pour parler de grandes femmes, de femmes, enfin, les femmes écrivent, et puis leurs noms, on les a reconnus, etc. Et puis, en fait, si on vous demande là tout de suite de citer des écrivains majeurs de l'histoire de la littérature, et vous aussi, Céline, c'est pas du tout des femmes qui vont venir, parce que on peut pas dire que les femmes n'écrivent pas, elles écrivent, mais leurs noms sont effacés. Et là, on l'a vu hier, moi j'ai regardé en arrivant à Lyon hier soir, j'ai regardé les cérémonies, évidemment, de panthéonisation de Germaine Tillon, et c'est vrai que. Et de Geneviève Antonioz de Gaulle. Et j'étais frappée par le fait que du coup, entendre leur voix, entendre parler d'elles, me faisait un énorme bien, parce que c'est quand même, ça n'arrive quand même pas si souvent, et d'entendre leur manière de parler, puisqu'il y a eu du coup énormément d'émissions autour de. Donc rien qu'entendre leur voix et Germaine Tillon ou Geneviève Antonioz de Gaulle, c'est pas des écrivains, mais pour moi c'est dans leur rayon, dans leur domaine. Je me compare même pas du tout à elles. D'abord, elles sont au Panthéon, ça fait une petite différence. Mais elles ont fait la preuve de leur continuité, de leur courage, ce qui est absolument pas mon cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui change quand on entend ces femmes-là parler. Et moi, ce que j'essaye de faire avec les livres pour les adolescents, ce roman-là, c'est quelque chose de minuscule, hein, comme le colibri de Pierre Rabhi, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, en tout cas.
Alors, effectivement, vous mettez en scène, ou alors vous décrivez ces femmes de lutte, ces femmes de caractère, ces femmes d'engagement dans les yeux des autres, donc Anna et Molly, qui sont deux sœurs, et qui finalement, l'une est médecin, donc Molly, qui s'engage tous les jours contre la mort, contre la maladie, on la voit dans son cabinet avec des patients extrêmement atteints. Et puis Anna, elle, prend ses carnets et puis elle se replonge en fait dans sa vie passée, plus précisément dans les années 70, des années qui étaient en fait des années de lutte aux côtés de Marek, aux côtés de Boris, des hommes que toutes deux ont aimés, et des années de lutte un peu révolutionnaires. Alors, pour introduire cette discussion, Geneviève Brisac, je pourrais vous demander de nous lire un passage de votre roman, un passage donc, où Anna regarde en arrière Anna l'écrivain.
Dans ce passage particulièrement dynamique, vous allez voir, de plombant à moi. Anna a renoncé à écrire. Elle a coulé comme une brique. Le temps est passé au galop comme il fait quand on rêve, quand on oublie de faire en sorte que tout, et que la matière de sa propre vie, devienne la matière d'une illusion à décrire, d'une désillusion à analyser avant que tombe la nuit où l'on ne peut plus lire. L'existence d'un écrivain qui ne se sent plus le droit d'écrire est une lutte vaine contre la culpabilité, l'empêchement, la honte, les voix rugissantes et mauvaises qui ricanent et menacent. Tourne ta langue dans ta bouche pour qui tu te prends. On veut voir qu'une seule tête. Réfléchis avant de parler, comme tu es sotte. Réfléchis avant d'écrire, réfléchis aux conséquences de ce que tu fais. Peux-tu me dire à quoi ça sert de répandre des ragots de bonne femme, de salir les gens, de raconter ta vie sans intérêt au lieu d'agir, de te rendre utile, d'aider les affamés, les malheureux, les vieux, les pauvres, au lieu d'apprendre la plomberie, la pâtisserie, les mathématiques? Écrire lui était déjà interdit avant, lui avait toujours été interdit. Elle s'était bardée d'une obligation d'interdiction, alourdie d'un devoir de transgression, paralysée par la nécessité et l'empêchement. Mais elle ne s'en était pas rendue compte. C'est ainsi que souvent s'expliquent les courages, le courage des taupes. Elle voulait croire que l'on peut dire sans dire, que l'on peut écrire sans blesser. Les taupes ne savent pas ce qu'elles font. Anna Jacob, devenue Deborah Fox avec le succès de son premier roman, avait pensé sincèrement pouvoir passer entre les gouttes de la haine, de la jalousie, si légitimes, les unes et les autres. Elle avait cru à la littérature, à son pouvoir de réparation, de fixation, de creusement inéluctable. Nous avons besoin d'écrivains et d'archéologues, comme nous avons besoin de beauté et de pain. Nul n'a jamais vécu sur cette terre sans avoir son propre point de vue, a dit le poète Robert Browning. Et le tien, Déborah, tu n'as pas eu la force de l'imposer, tant pis pour toi, murmurent les voix. Tu as laissé passer le moment où tu aurais pu te faire entendre. Tu dis que tu n'as pas supporté la douleur du procès, que tu n'as pas supporté les regards de mépris, la séparation, le rejet des tiens, mauvaise excuse, pauvre défense qui ne désigne rien d'autre que ton renoncement. Tu as cru pouvoir prendre d'autres chemins que les petits sentiers habituels, mais non, ce n'est pas une affaire de chemin, c'est une affaire de naufrage. Nager plus loin, nager vers le large. Assis sur le canapé, enroulé dans le plaid de mohair, le bout des doigts rouges et les ongles cassés, Anna voit les choses ainsi. Elle nageait. Elle a voulu revenir sur la terre ferme, mais les vagues la rejettent. Les vagues glissantes l'empêchent de grimper sur le rocher. Les arêtes aiguës font saigner ses doigts. Elle ne peut pas grimper. Elle monte et descend avec la houle et boit l'eau qui remplit la bouche et les poumons d'un seul coup. Elle monte et descend, tend les mains vers l'arête de la roche. Funeste inattention aux choses les plus simples. Déborah Fox a coulé. C'était super gay.
Merci pour cette lecture. Alors, on vient de l'entendre, hein, le temps a une importance particulière ici. Et ce dont vous faites le récit, d'abord, c'est quand même le récit, comme vous l'avez écrit, d'un naufrage, d'une noyade, d'une chute. Est-ce que vous vouliez... pourquoi avoir voulu commencer par le récit de cette déchéance en absence? Est-ce que c'est une tragédie, votre roman?
Je pense que c'est des moments... c'est des moments qui arrivent à tout le monde, en fait. C'est des moments nécessaires, c'est des moments dont on pense, quand on les traverse, qu'on ne s'en remettra pas, qu'on voilà, on a coulé, on restera au fond. Et or, c'est toujours de ces moments-là que naît quelque chose de nouveau, de différent, d'imprévu, finalement, d'imprévu.
Justement, vous dites dans votre roman, il s'agit de faire de sa vie une désillusion à écrire. Donc, voilà, puiser dans ce désespoir pour faire surgir... un acte créateur. Mais est-ce que c'est pas un petit peu esthétisant cette position, c'est-à-dire revenir sur sa vie, la voir comme une œuvre d'art?
La voir comme une œuvre d'art, c'est une façon de parler, mais en tout cas une vie, enfin je vais le dire de manière un peu brute, voilà, on a une vie, on n'en a pas d'autre, donc autant faire le truc le mieux qu'on peut et qui ait le plus d'allure possible. Alors, est-ce que c'est esthétisant de vouloir faire de sa vie quelque chose qui ait de l'allure? Ça rejoint ce que je disais sur Germaine Tillon. À un moment donné, elle s'est dit, elle me dit très bien, d'ailleurs, elle n'avait presque pas le choix, mais elle s'est débrouillée pour faire de sa vie quelque chose qui ait de l'allure plutôt que le renoncement. Alors, évidemment, alors, l'histoire de la désillusion, c'est un petit peu compliqué, et souvent, et puis peut-être que pour des gens de 15 ou 16 ans, c'est un peu, je ne sais pas, répugnant, mais je pense qu'il n'y a pas, on a toujours l'impression, je connais personne, et je connais des gens de toutes sortes, qui ne pensent pas que c'est, enfin, à un certain âge, disons, que sa vie a été tressée de désillusions. Mais vous demandez à Vincent Lindon, hein, qui vient d'avoir le prix de je sais pas quoi, d'interprétation masculine à Cannes, n'empêche que il raconte des bobards à la télévision ou à la radio, mais si vous l'interrogez demain, il va être pétri d'amertume, de désillusion. Même si ça aurait été le plus beau jour de sa vie, ben voilà, maintenant c'est fini, c'était hier, donc dommage, hein. Il n'y aura plus de plus beau jour puisque c'était hier. Donc, je crois que, et en plus, on vit dans un monde de très différent aujourd'hui où tout le monde étant connecté passe son temps à regarder la vie des autres en pensant qu'elle est super bien. C'est-à-dire que, et ça, c'est une chose très contemporaine, très particulière. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le sentiment qu'on est très peu de choses, qu'on n'est rien, qu'on est une poussière, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais la vie des autres, elle a vachement de sens. La vie des autres qu'on voit. Il y a une très jolie histoire d'une écrivain américaine qui s'appelle Annie Dillard. Et Annie Dillard dit que c'est une femme qui, une américaine, qui vit beaucoup dans la nature. Elle a passé des mois dans une cabane dans la forêt. Elle en a tiré un très beau livre qui s'appelle En vivant, en écrivant, que j'adore. Et alors elle parle beaucoup de sciences naturelles, d'observation et tout ça. Et elle dit que, par exemple, vous prenez un papillon mâle, et vous lui proposez deux choix, soit un grand papillon femelle sur un écran de cinéma, soit un petit papillon femelle normal, vivant, etc. Le papillon, malheureusement, se jette sur l'écran et meurt. Elle se sert très bien de cette métaphore qui est très jolie pour montrer comment on est tous prodigieusement leurrés par les représentations. Donc, il ne s'agit pas d'être esthétisant du tout, il s'agit au contraire d'être dans une certaine réalité que la littérature est là pour rappeler finalement, et le livre.
Dans cette écriture qui est tournée à la fois vers le passé et vers le présent, vous parlez aussi d'oubli, de mots ou d'objets dont vous constatez, je cite, qu'ils sombrent dans le néant. Je pense que vous avez dit cette phrase notamment à propos du stencil dans le roman. Et vous aviez d'ailleurs déclaré à propos de cette perte qu'elle accompagnait l'écriture, je vous cite aussi, on écrit aussi avec ce qui est en train de disparaître, donc sur les ondes de France Culture. Faudrait-il voir sous vos mots aussi un passé qu'il faudrait préserver, sauvegarder à tout prix, ou en tout cas dans nos mémoires?
Oh bah, ça c'est sûr. C'est sûr que la destruction de la mémoire, des objets du passé, des choses du passé, est certainement ce qui nous déshumanise le plus. D'abord, ça nous rend un peu débiles. Et puis, c'est quand même plus intéressant de se souvenir des objets, des traditions, des histoires, surtout. Les histoires, elles servent à ça. Hein. Les histoires, quand les objets ont disparu, quand les gens ont disparu, elles servent justement à les faire durer, à les éterniser.
C'est intéressant parce que Umberto Eco a publié récemment un ouvrage, un roman qui s'appelle Numéro Zéro, et dans lequel...
Qui est très mauvais quand même.
Oui.
C'est Umberto Eco.
Oui. Dans ce roman, l'auteur s'est dit assez inquiet, nous serions entrés dans un monde sans mémoire, justement. Mmh. Et pour lui, la jeune génération n'aurait plus de conscience historique. Alors vous qui faites retour comme ça sur cette période des années 70, dont vous dites aussi qu'elle est en train de faire retour peut-être par son esprit en ce moment,
moi je pense d'abord que quand on est un vieux schnock, il faut un peu se méfier de ce qu'on dit sur les jeunes générations, parce qu'en fait on n'en sait rien du tout. Je ne sais plus, hier comme ça on parlait de... Oui, quelqu'un disait plus personne ne lit Henri Michaud. Ah bon, j'en sais rien, enfin il faudrait avoir des statistiques, peut-être qu'on ne parle pas d'Henri Michaud tous les jours au journal de TF1, mais ça, on n'en a jamais parlé. Donc, qui lit Henri Michaud? Comment on peut le savoir? Les gens, les généralités sur ce que font ou font pas les jeunes, je trouve que c'est un peu... Et surtout, on est toujours surpris. C'est-à-dire, à la veille de mai 68, à la une du monde, du journal Le Monde, le gros titre d'un célèbre article de Vincent Ponté, c'était « La France s'ennuie ». En fait, elle s'ennuyait plus au bout de 5 minutes. Et le lendemain, quoi. Aujourd'hui, on dit les jeunes n'ont aucune conscience politique, patati patata. Et puis le lendemain, on voit que, je sais pas, en Espagne, il y a des jeunes gens de gauche qui font des tonnes de choses tout à fait inattendues, imprévisibles. Et on va voir. Enfin, on ne sait pas.
Alors, vous venez de parler de mai 68, justement, qui est peut-être plus présent dans nos mémoires, ou alors qui apparaît comme un événement peut-être un peu plus majeur, et pourtant vous ne revenez pas sur mai 68.
Ah bon ?
Pas vraiment, en tout cas dans votre roman, vous le faites plutôt dans les années 70. Pourquoi cette date ? Pourquoi ces années-là ?
Qu'est-ce alors, qu'elle 70, c'est donc le lendemain de 68. Hein,
mm-hmm. Oui.
Et pourquoi je reviens pas ? pour moi, c'est comme parler de mai 68. Hein. En vérité, d'ailleurs, la manifestation, il y a un chapitre assez important du livre qui est une grande manifestation, qui est une manifestation de solidarité avec des étudiants mexicains qui viennent de se faire assassiner sur la place des Trois Cultures à Mexico. Et donc ça, c'est juste après 68. Hein. Mm-hmm. Et c'est une manifestation qu'énormément d'étudiants de cette époque-là, enfin moi, j'étais encore lycéenne, mais c'est pareil, enfin, lycéen ou étudiant, et enfin, j'étais en première. Quoi. Et donc, c'est une manifestation qui était très étrange, parce que comme il y avait eu des morts sur la place des Trois Cultures, et on marchait avec une espèce d'imagination que c'était la même chose, quoi, donc, qu'on était en danger de mort. C'était assez particulier. Et d'ailleurs, personne n'est mort, mais c'était une manifestation qui a été réprimée très, très, très violemment. Parce que le gouvernement en place ne voulait surtout pas qu'il y ait de nouveau des manifestations de rue comme au printemps. Et donc, tout le monde a été arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, la police a fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit du tout de faire dans les canons de la façon de procéder de la police. C'est-à-dire que la manifestation a été encerclée de tous les côtés, alors que normalement, tous les policiers qui sont ici savent qu'il faut toujours laisser une sortie pour que les manifestants puissent... Donc là, la manifestation a été encerclée, les CRS ont serré et tout le monde a été embarqué. Et donc il y a eu 3000 arrestations et 3000 personnes, ça fait beaucoup, ont été déversées dans des montées, dans des bus, etc. Qui du coup, et c'est là où la mémoire c'est intéressant parce que quand des milliers de manifestants sont emmenés dans des bus, immédiatement il y a des tas d'images, souvenirs qui reviennent de choses anciennes, de comment ça s'est passé pendant la guerre d'Algérie et puis comment ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tous ces effets, les bus incarne brusquement un effet symbolique. Mmh. Hein. Et donc, tout le monde a été déversé à Beaujon et tout le monde a chanté toute la nuit en attendant qu'on vienne nous libérer. Personne n'est mort, personne n'a été torturé, contrairement à ce qu'on était convaincu que ça allait être. Mais en fait, non. Mais quoi qu'il en soit, ça a créé comment est-ce que je peux dire ça? Et si vous rencontrez des gens, à part moi, qui ont vécu ce moment, c'est un moment très, très mémorable. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'était des gens qui étaient, ce jour-là, ils se font tous arrêter pour des étudiants mexicains. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a très, très peu de manifestations de rue pour des étudiants, même ne serait-ce d'ailleurs que pour des immigrés qui essayent de venir en France et qui se noient au large de nos côtes. Il n'y a pas... Là, il y a une forme d'habitude ou de résignation ou d'un sentiment d'impuissance qui s'est énormément développé quand même. Et donc cette scène-là, pour moi, c'est mai 68 en fait.
D'accord. Vous dites aussi que vous vouliez raconter le minable point de vue des filles sur ces années-là, sur la Révolution. Mais qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Est-ce que c'est encore nécessaire de le faire entendre aujourd'hui?
Apparemment.
Mais est-ce qu'il y a, de votre point de vue... par exemple, une écriture typiquement féminine, d'un point de vue... Est-ce que c'est une question littéraire, esthétique, ou alors est-ce que c'est une question tout simplement politique, puisque vous parlez de politique dans ce roman?
Disons que c'est toujours compliqué de faire des généralités. Oui. C'est parce que c'est... Il n'y a pas les femmes, si je peux prendre 10 femmes écrivains, aucune n'écrit le moins du monde comme moi, et réciproquement. Donc, évidemment, il n'y a pas une écriture féminine, mais pas plus d'ailleurs qu'il y a une écriture masculine. Donc, et il y a, je connais, je ne sais pas, 80 écrivains hommes, ils écrivent tous très différemment. Enfin, tout le monde écrit selon sa respiration, sa représentation, son histoire, ses lectures, son souffle, et puis son génie propre. Alors, mais il y a une chose que je m'appuie beaucoup sur Virginia Woolf, il faut bien s'appuyer sur... Voilà, et Virginia Woolf est pour moi un pur génie et celle qui a le mieux réfléchi, il n'y a finalement pas si longtemps que ça, sur ces questions de respiration. Et elle dit par exemple que dans Une chambre à soi, qui est un livre que je recommande à tous ceux et celles qui ne l'auraient pas encore lu, que c'est pas qu'il y ait une écriture féminine, en revanche il y a une façon de regarder, il y a une façon d'observer, il y a une façon de vivre, de un rapport aux autres, etc., et puis une histoire, tout simplement, et aussi une respiration qui est différente selon les hommes, pas les hommes et les femmes, mais en tout cas, il est certain que si Or, le gros problème qu'il y a à l'origine, c'est pas moi, quand j'avais 8 ans, je savais très bien que je serais écrivain, mais un garçon de 8 ans, il se dit, je serai Victor Hugo, ou je serai Chateaubriand, ou je serai Umberto Eco. Mais, et moi, évidemment, une fille de 8 ans, elle ne se dit pas qu'elle sera Victor Hugo. Ou alors, si elle le dit, elle ne le dit pas trop fort, parce qu'elle est certaine que si elle dit à sa prof de français, ou à ses parents, ou à sa grand-mère, je serai Victor Hugo... Oui, bien sûr, mais tu ne vas jamais avoir de barbe. Et donc, enfin, il y a un... On sait très bien. Donc, voilà, enfin, donc, de toute façon, ça, il y a cette histoire d'identification qui est très, très importante dans la transmission en général. Donc, moi, je m'appuie sur Virginia Woolf et sur ce qu'elle a dit là-dessus, c'est-à-dire que les femmes doivent ont à conquérir un territoire de reconnaissance de leur, je sais pas, je vois bien, je suis sûre que si vous prenez la liste des écrivains que vous étudiez à l'ENS, la proportion de femmes elle reste très très faible, très très faible. Et pourquoi? Ah bah c'est comme ça. Bah tant pis. Hein. Et en plus dès qu'on dit mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes, on ne veut pas nous fatiguer avec ça, tout le monde barbant. En plus, nous on adore lire les. Alors l'énorme inégalité, c'est que je connais aucune femme écrivain qui n'adore pas lire les livres de ses copains écrivains. Donc on les lit toute la journée. Moi j'ai écrit des centaines d'articles sur tous mes camarades écrivains. Voilà. Mais eux, en fait, bizarrement, ça les embête. C'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est juste que ça ne les amuse pas de lire les livres des femmes. Ça les fait chier. Donc, enfin, pour la plupart, disons. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont très très amicaux, mais ça va pas plus loin. Donc en fait, on n'en a pas tellement besoin de leur amitié, de ce moment-là. Et donc ça, c'est une énorme différence. C'est alors, qui change un petit peu quand même, mais qui reste, mais qui ne change pas tant que ça. Donc, il y a aussi une très belle histoire de Virginia Woolf que je vous raconte en passant. Quand elle est morte, donc en 41, on a demandé à Eliot, on le connaît. Qu'elle avait beaucoup aidé, beaucoup protégé, beaucoup financé, qu'elle avait publié dans sa maison d'édition, pour lequel elle avait organisé une collecte pour qu'il puisse ne plus aller à sa banque, mais faire que écrire ses poèmes, etc. Donc, il lui devait beaucoup. Et donc, le Times est venu voir Eliot et lui a dit, « Bon, monsieur Eliot, vous écririez la une du Times sur Virginia Woolf qui vient de mourir. » Il a dit, « Ah, non, non. » C'est une amie. Alors, oui, enfin, justement, ce serait vraiment très bien que c'est une amie, que vous écriviez cet article. Je ne vais pas le faire parce que je l'aimais beaucoup. Hein. C'était vraiment une très. Elle n'a pas dit une brave femme, ce point de vue déjà, mais c'est vraiment une bonne personne, comme on dit toujours. C'était une bonne personne. Mais ce qu'elle écrivait. Ce qu'elle écrivait, c'est bien pour elle, hein, mais c'était pas mal. Mais je ne peux pas écrire. Moi, quand il y a ces lieux, je n'écris pas sur ces choses un peu ennuyeuses. D'ailleurs, je ne la lisais pas tellement. Et ça, j'ai l'air énervée, mais en fait, c'est juste la vérité.
D'ailleurs, vous mettez en scène deux personnages dans votre roman lors d'une rencontre, en fait, dans des soirées littéraires. Un jeune homme qui s'appelle Alexandre, que vous appelez le mâle du 21e siècle, et puis un autre, à la fin, qui n'a pas de nom, mais qui déclare ceci, je vous cite parce que c'est à la fois très drôle et un peu glaçant aussi. « Comment voulez-vous qu'on puisse penser en même temps à des crèmes pour la figure, aux lessives à faire et à de nouvelles phrases à inventer ? Elles ne sont pas prêtes pour de véritables œuvres durables, profondes. » Qui puisse en tout cas alimenter mon projet littéraire. Ce n'est en aucun cas une question de genre, plutôt une question de personne. Voilà, tu peux illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a aussi dans votre roman une certaine valorisation de l'enfance. Vous décrivez beaucoup et avec beaucoup de justesse en fait les enfants de cette rue, la rue Vauquelin, qui est en fait un squat que des enfants, que des familles d'immigrés illégaux habitent. Et il y a donc ces enfants à qui Boris donne des noms, enfin qu'il les rebaptise avec des noms de poètes russes. Pourquoi cette insistance sur l'esprit d'enfance qu'on retrouve aussi dans d'autres essais comme La Marche du Cavalier?
Voilà, on entend les. j'aime ça. Enfin, je crois que j'aime ça, l'esprit d'enfance, ça me fait marrer. Quoi. Je sais pas quoi dire. Je regarde n'importe où, dans n'importe quelle partie du monde, où que ce soit, dans une ville, la campagne. Les enfants sont l'essence de la plupart. Si on, pour un écrivain, en tout cas, je connais pas d'écrivain que ça n'intéresse pas d'observer des enfants. parce que tout est là, la concentration, la passion, le jeu, la curiosité. Enfin, c'est pas que je sois rousseauiste, bien qu'il est possible que je le sois un petit peu, mais dans l'ensemble, tout ça s'abîme quand même un peu normal. Enfin, les enfants peuvent être très très emmerdants et parfois débiles, mais même assez souvent. Et on serait assez content de s'en débarrasser très fréquemment, mais il n'empêche que quand même l'enfance, c'est le... Et puis, du point de vue de la lecture, c'est sûr que ça se joue là.
Il y a un personnage dans votre roman qui s'appelle Mélanie, qui est la mère donc d'Anna et Molly, qui semble, en un sens, avoir gardé cet esprit d'enfance. Elle est espiègle, elle est fantasque, Mélanie. Elle est extraordinaire, en fait, je dois dire. Elle se métamorphose en camarade Zoé pour suivre ses filles au Mexique et faire la révolution. Elle est en même temps très aristocratique. C'est comme ça que vous la décrivez. Elle se moque bien des conventions. Mais d'où vient Mélanie, en fait? Comment l'avez-vous imaginée?
Pas eu de mal. La connaît. Il a fait longtemps qu'elle frappait à la porte de mes livres. C'est Marguerite Duras qui dit « Tout écrivain a une mère inépuisablement stupéfiante à décrire. » Je c'était fastoche.
Pourtant, c'est aussi... Mélanie fait souffrir Anna. C'est aussi ce qu'on appellerait un peu... avec beaucoup de prudence, peut-être une mauvaise mère, au sens où...
Enfin, elle est comme elle est, quoi. De toute façon, enfin, en tout cas, pour écrire, elle est bien, quoi. Il y a une scène dans les cahiers de la guerre de Marguerite Duras où elle raconte une dispute entre sa mère et elle. Enfin, je pense que c'est peut-être des personnages de fiction, mais c'est clairement sa mère et elle. Et à un moment donné, sa mère tombe dans l'escalier. Et elle, Marguerite Duras, elle se tord de rire. Et sa mère aussi se tord de rire. Et elle dit, c'était notre petit humour en commun. Et à part ça, sa mère la traitait de tous les noms, d'une méchanceté absolument affreuse. Mélanie n'est pas très gentille, hein, mais elle est assez drôle, c'est vrai. Et surtout, elle prend la lumière et elle prend tout d'ailleurs, une espèce d'ogresse.
Elle veut tout, ça. C'est ce que vous dites.
Et elle n'a pas de limite. C'est vrai qu'il y a une scène que j'aime. En fait, quand j'ai commencé, j'avais jamais tellement utilisé ce personnage avant, même jamais. Et quand j'ai commencé, quand elle est entrée dans le livre, j'ai commencé à écrire sur elle, je pouvais écrire 3000 pages. J'avais 3000 histoires totalement désopilantes, comme l'histoire du maillot de bain, ou l'histoire de l'atelier d'écriture, ou l'histoire du supermarché où elle va acheter des légumes et où elle les épluche avant de les peser, parce que comme ça, c'est moins cher. L'avarice, c'est un thème, c'est très très avare. Le personnage de Mélanie est un personnage très très avare, et c'est le principe de l'avarice, c'est un principe incroyablement comique, en fait, parce que ça oblige toujours, du point de vue littéraire et dans la réalité d'ailleurs, à des inventions. Par exemple, le fait de se balader dans un supermarché, de prendre un chou-fleur, de l'éplucher, de le poser tout épluché sur la balance, c'est de l'imagination quand même. Ou les poireaux, pareil. Donc, couper les poireaux avant de les peser, c'est vrai que...
Alors, vous la comparez à Oriane, l'aristocratique de Proust, mais la question aussi vaut pour Anna et Molly, qui tiennent en fait leur nom d'un roman de Doris Lessing, Le Carnet d'or, qui elle-même le tenait en fait de Joyce. Pourquoi en fait autant de surdétermination autour de vos personnages à travers même leur nom? Pourquoi avoir voulu...
Je pense que tout le monde le fait. Je pense que quand Virginia Woolf, pour continuer dans mon fil, appelle Mrs. Dalloway Clarissa Dalloway, Clarissa, c'est une citation. Donc, je crois que c'est le principe même de la littérature, c'est que derrière un apparent réalisme, au cinéma, c'est exactement la même chose. Vous prenez les trois souvenirs d'enfance d'Arnaud Desplechin qui vient de sortir. Son personnage s'appelle Paul Dédalus, et évidemment, c'est une connotation, et tous les noms des personnages. Quand, pour un écrivain ou un cinéaste, mais c'est pareil, nommer, c'est déjà installer plusieurs couches d'épaisseur, finalement, d'épaisseur romanesque, dans lequel on se reconnaît ou pas, mais... dire que tout le monde ne comprend pas nécessairement. Moi, ça m'est complètement égal que les lecteurs ne sachent pas qui sont Anna et Molly dans Le Carnet d'or, chez Joyce, et avant chez, je ne sais pas, Fielding, ou, etc. Ça m'est égal, mais c'est là. Parce que la littérature se nourrit toujours des livres qui ont été écrits avant. Qu'on le veuille ou non, un écrivain est toujours la résultante, la somme est la résultante des livres qu'il a lus, qui l'ont traversé, qu'ont lu les gens qu'il a lus, etc., etc. C'est comme ça que
vous utilisez d'ailleurs très souvent la métaphore du grand fleuve de la littérature qui continue ainsi.
Oui.
Et justement, pour parler de nom, Marek Meursault, c'était une allusion à Camus ou alors pas du tout?
Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé comme Camus. C'est-à-dire que Camus raconte toujours qu'il a vu une bouteille de Meursault et que c'est comme ça qu'il a appelé son personnage Meursault. Et il est arrivé la même chose pour Marek. J'ai vu une bouteille de Meursault, j'en vois pas sans arrêt. Et donc j'en ai vu une et paf, j'ai dit, oh, c'est bien Meursault. Et en plus, dans Meursault, vous entendez bien que c'est un bon nom qui est avec plein de sonorités intéressantes, même si on... Donc, et Marek Meursault, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas fait spécialement attention à Camus. Et surtout, là, il n'y avait pas d'intentionnalité plus que ça. D'autant que le personnage de Marek, il est plutôt dostoïevskien que camusien, en vérité. C'est pas complètement contradictoire, mais c'est quand même plutôt ça, ses références. Et comme beaucoup d'adolescents des années 70, ils lisent Dostoïevski toute la journée. Et... Enfin, les garçons, d'ailleurs, surtout. Ça me plaisait qu'il s'appelle Marek Meursault, c'est sûr.
Alors, Marek Meursault, pour le présenter rapidement, c'est le compagnon d'Anna, mais c'est surtout un révolutionnaire, hein, une grande figure du parti à Paris, qui va partir en Amérique latine, qui va mourir là-bas, emprisonné, pour ses idées.
Je n'ai pas exactement la révolution, parce que d'abord, il y a eu quelque chose qui est très important pour ma génération, c'est-à-dire il y a eu un espoir immense mis dans le président Allende et l'Unité populaire au Chili. Et ça a vraiment... Aujourd'hui, c'est presque oublié, mais pas oublié. Pas plus qu'Henri Michaud non plus, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement souvent. Or, ce qui s'est passé au Chili dans ces années-là était vraiment un espoir de révolution non violente. Hein, et puis, le président Allende était un personnage magnifique, mythologique, donc un médecin qui a été assassiné au moment du putsch du général Pinochet. Donc, pour les étudiants dont je faisais partie à ce moment-là, c'était un coup terrible. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était un coup terrible. Et donc, et puis des militants chiliens ont été assassinés en grand nombre, ce qui de nouveau réveillait, parce que c'est toujours comme ça, les souvenirs du moment de la guerre d'Algérie, les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, les souvenirs, etc. Donc tout ça se réembobinait de cette manière. Et donc énormément de gens, dont moi, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les Chiliens, les militants chiliens. Ils ont recueilli et ont essayé de les aider. On a essayé d'envoyer du matériel, des machins, des bidules, des trucs. Et ils sont allés, plus ou moins. Enfin, certains ils sont allés, enfin, d'autres ils sont. Enfin, voilà. Et donc c'est ça que ça raconte, c'est cette expédition-là. Alors, ils sont basés au Mexique parce que pour les besoins de mon histoire, mais évidemment, c'est une espèce de base arrière de soutien aux militants chiliens qui sont... Donc, en fait, ils font pas tellement la révolution, ils se défendent contre le fascisme, ce qui est quand même une nuance, c'est pas tout à fait pareil, quoi.
Alors justement, Marek, si on parle de lui dès les premières pages en fait du roman, il n'apparaît que très tard, vraiment en personne entre guillemets dans vos pages. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir laissé un petit peu planer le mystère autour de Marek? Parce que c'est quand même à travers lui qu'on définit Anna dans les premières pages du roman. On dit c'était celle qui a accompagné Marek Meursault, c'est celle qui a écrit sur lui, qui l'a un peu calomnié.
Au début on se dit mais qui c'est ce Marek? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? C'est un peu comme dans un roman policier en fait. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien évidemment on le sait à la fin, quoi.
Un autre personnage masculin qui est également très intéressant, c'est Boris, qui va justement s'occuper des enfants du squat de la rue Vauquelin au moment où Anna et Molly sont à Paris. Boris, qui est un raconteur d'histoires, qui raconte beaucoup d'histoires aux enfants, et qui surtout leur apprend le poème de Rosa Auslander, dont est tiré en fait le titre du livre, « Nous sommes devenus des épines dans les yeux des autres ». Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Rosa Auslander et pourquoi avoir choisi ce titre ?
Au début, le livre s'appelait juste Anna et Molly. Et là, mon éditeur m'a dit que franchement, c'était pas terrible. D'accord. Donc, vous savez, beaucoup de livres, en fait, ont un titre pour l'écriture. Et puis, une fois qu'on arrive à la fin, on arrive... il faut habiller le livre pour sortir, quoi, finalement. Et donc, il fallait en trouver un. Et comme il y avait cette scène où Boris lit les poèmes de tous ces poètes de Bukovine... dont fait partie Paul Celan, Rosa Auslander, ce sont des poètes d'un endroit en Bukovine qui s'appelle Tchernovitz, où il y avait un ghetto et il y avait une concentration de poètes judéo-allemands, Rutten, enfin, c'est, Aaron Appelfeld en parle très bien aussi, hein, parce que lui et sa famille vient de là. Et donc j'avais lu un recueil de tous ces poètes, et en particulier ceux de Rosa Auslander, qui n'est pas la plus connue, hein, on connaît plus Paul Celan. Et Rosa Auslander, elle est un personnage magnifique, ses poèmes sont extraordinaires. Elle a une autre qualité que j'aime beaucoup, c'est que après avoir été arrêtée, avoir été en ghetto, après avoir été déportée, etc., etc., elle a vécu jusqu'à, je sais pas, 94 ans. Et moi, j'adore ça, ça me plaît toujours beaucoup que les gens traversent des tonnes de périple épouvantable et on les retrouve à 94 ans, c'est très réconfortant pour tout le monde, et moi en tout cas ça me réconforte beaucoup. Et droite dans ses bottes, telle qu'elle, Rosa Auslander, et les poèmes sont sublimement beaux. Et ils ont aussi cette qualité que c'est des poèmes très quotidiens, moi j'aime la poésie très concrète, très, très incarnée, très mélangée justement aux confitures et aux odeurs de la campagne, aux oiseaux, je ne sais pas quoi. Enfin, ça, cette intrication-là du quotidien et des idées et de la littérature, c'est ça qui me plaît, moi.
Alors pour revenir un petit peu sur... en fait, la manière dont vous écrivez vraiment, vous parlez beaucoup dans ce roman des pleins et des déliés de la langue. Anna qui reprend son stylo, qui rouvre son cahier, Anna qui écrit, du fait d'ouvrir des carnets comme ça. On a l'impression justement qu'il y a quelque chose de très sensuel dans l'écriture, dans la manière dont vous le décrivez, de très matériel. C'est aussi l'importance du geste qui vous attire.
Je pense que c'est le mouvement de l'écriture, il est physique, hein, de toute façon, même si on écrit à l'ordinateur, ce qui devient plus ou moins le cas à un moment donné. Je me souviens exactement du jour où j'ai appris à écrire. Et à l'époque, dans ma petite école, je sais pas, quartier, c'était une école un peu Montessori, je pense, ou genre comme ça, enfin peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, bref, on avait des boîtes de sable, ça je m'en souviens comme c'était hier, et donc on écrivait, on apprenait les lettres, on les dessinait dans le sable avec les doigts. Et c'était incroyable, c'était vraiment... C'était une expérience absolument inoubliable parce qu'on sent le bras, on sent la lettre. Donc il y avait quelque chose de très physique dans la description même de la lettre, le mouvement de... Et chaque lettre d'ailleurs a un caractère en fait pratiquement. Et après quand vous apprenez à écrire, ce dont tout le monde se souvient ici, vous faites des lignes. Et quand vous faites des lignes de lettres, c'est comme quand vous apprenez la peinture, hein, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'apprentissage, les apprentissages les plus fondamentaux. Quand vous apprenez des opérations, c'est pareil, il y a quelque chose dans la pose des opérations qui s'inscrit très, très profondément. Et alors dans le livre, il y a une importance très grande qui est donnée à l'art visuel, et en particulier aux banderoles. C'est-à-dire que forcément, comme on est en 68, 69, 70, 71, les gens passent leur temps, enfin les étudiants, passent leur temps à faire des banderoles. Activité dont je me demande aujourd'hui pourquoi on trouvait ça tellement essentiel. Et je pense que c'était quelque chose de poétique. C'est-à-dire que ce qu'on adorait faire, c'est appliquer des draps aux parents, les déchirer, les amener dans la cour de la fac, clouer ou peneser des bâtons, des balais volés également de chaque côté du drap, et après prendre des bombes à peinture ou des pinceaux, ou etc., selon les goûts. Un peu comme les gens qui font des tags, hein, c'est exactement le même esprit, quoi. Et inventer des belles phrases, ou des slogans, ou des phrases poétiques, ou des trucs qui correspondaient. Et l'idée de promener des phrases dans la rue, c'est exactement pareil que faire un tag dans une gare. Ça, c'est inscrire de l'âme, de l'esprit, quelque chose dans le paysage urbain. Et je reste avec cette idée que se promener en portant une phrase ou des mots poétiques sur un drap blanc, bien écrit, avec justement, quand on a bien rempli Alors, remplir les lettres avec de la peinture, du feutre, de la bombe, etc., etc., c'est un peu pareil que quand on... Enfin, genre, je vais dire des conneries, je n'ai ma phrase. Quand on apprend à faire des cartes d'histoire géo, par exemple, je me souviens très bien, il y a une époque où ce qu'on adore faire, c'est des reliefs à l'intérieur des courbes de la carte pour montrer qu'il y a une baie, etc. Moi, j'ai des souvenirs absolument exaltés de ça, ces petits grisés qu'on fait pour faire ressortir le volume de la carte, ou le volume de ce qu'on veut d'ailleurs. Et c'est quelque chose comme ça, ça fait surgir la réalité.
Quelle importance accordez-vous vous-même à la critique littéraire? Vous en faites un portrait assez cruel dans l'ouvrage, mais bon, très, vous dites atroce. Atroce, la cruauté est la chose la mieux partagée du monde dans ce milieu.
J'adore la critique littéraire, surtout quand elle m'adore elle-même, mais... La critique littéraire, c'est comme tout, c'est comme la critique de cinéma, la critique de théâtre, la critique d'art en général. Il y a à l'intérieur chez les critiques, il y a des gens absolument merveilleux, passionnés, qui consacrent des années de leur vie à lire les œuvres intégrales des gens dont ils parlent, et puis il y a d'autres personnes qui font autrement, qui se moquent, qui sont plutôt dans le social, la mondanité, le pouvoir, etc. Et donc cela, ça peut pas, c'est un peu des ennemis quand même, quoi. Donc forcément. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup. Je sais plus, Joyce Carol Oates, je crois, qui disait qu'il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains qui s'intéressent aux autres écrivains, et les écrivains qui s'intéressent pas du tout aux autres écrivains. Vous prenez, je sais pas, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Antoine Volodine, par exemple. Antoine, c'est quelqu'un c'est vraiment l'écrivain caillou, quoi. Il s'intéresse pas du tout, enfin, je vous ai en temps, mais enfin, pas tant que ça, en tout cas. Mais il y a d'autres écrivains, comme Joyce Carol Oates ou Virginia Woolf ou moi, qui au contraire adorent lire les livres des autres. On ressent une exaltation fraternelle, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que je fais de l'édition, d'ailleurs.
Oui. Alors, vous avez aussi donc collaboré en 2009, je l'ai dit, avec Christophe Honoré, qui a lui aussi publié des livres pour enfants.
Donc, c'est un rapport, oui.
Pour le scénario de Non, ma fille qui n'ira pas danser, qui a été inspiré de votre roman, Week-end de chasse à la mer. Pardon. Alors, quel rapport avez-vous entretenu avec cette adaptation? Par exemple, mardi dernier, Joyce Sormont, qui était invitée aux Assises du roman, disait que pour elle, l'écriture de scénario était une des choses parmi les plus difficiles au monde en tant qu'écrivain. Et vous, comment avez-vous... finalement ressenti cette expérience d'adaptation?
C'était la chose la plus facile au monde. En fait, c'est des histoires particulières. D'abord, j'ai fait un seul film j'ai écrit un seul film qui était celui-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Christophe donc est arrivé un jour à l'école des loisirs il y a longtemps, en disant voilà, j'ai écrit un livre pour enfants, ça s'appelle Tout contre Léo, de toute façon vous ne le publierez pas. Je dis je sais pas, je vais le lire, quoi. Et puis donc je l'ai publié, ça a suscité tout un tas d'agitation parce que le sujet était scabreux. Et par la suite, c'est devenu un téléfilm pour M6 et il est devenu cinéaste comme ça. Donc on était tout le temps très liés. Hein. Là, il fait un opéra à Lyon. Moi, j'ai fait aussi un opéra à Lyon il y a 4-5 ans. Enfin, il y a plein de... C'est un ami. Enfin, donc, en fait, c'est un militant homosexuel qui, depuis très très longtemps, voulait avoir des enfants. Hein. Donc, il a eu une petite fille qui s'appelle Paulette, qui a maintenant 11 ans, je crois. Et au moment où Paulette est née, c'est à peu près le moment où on a commencé à parler de « Non, ma fille, tu n'iras pas danser », on avait des tas de discussions sur l'éducation des enfants. Et sa théorie à la gomme, c'était que les hommes étaient beaucoup mieux... élevait quand même beaucoup mieux les enfants que les femmes, et d'ailleurs la preuve dans mon livre Week-end de chasse à la mer, ces pauvres femmes étaient vraiment, pas la pauvre héroïne, c'est tellement mauvaise mère que c'en est accablant. Et c'est vrai que Christophe est un type très aussi positif que moi, j'aurais tendance naturellement, ma forme d'humour, comme vous l'avez remarqué, est plutôt négative. Donc mon autodérision faisait écho à sa positivité essentielle, quoi. Et donc, on est parti de ça. Et c'était très, très facile. Et donc, on découpe... Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler à deux. Hein. Mmh. Je l'ai fait plein de fois. On se répartissait le travail et puis on écrivait nos scènes et on les trouvait super. Et puis... Non, mais c'est plus agréable. C'est vrai qu'écrivain, c'est souvent assez solitaire, hein, quand même. Donc, quand vous êtes à deux, ben, c'est plus rigolo, quoi.
Alors après avoir beaucoup parlé, c'est le moment de laisser la parole au public et aux lycéens. Mais avant, on va entendre pour lancer ce temps d'échange une nouvelle lecture de votre roman Dans les yeux des autres par l'une des bénévoles de la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui.
Le plateau du Scrabble est occupé par une partie en cours. L'entrelac des mots sur la table de jeu fait comme une butte témoin, un fil, une base continue. Fusiller en abscisse et foutre en ordonnée. Termite sur le T, murène sur le R, savona sur le N. Molly tire 7 vieilles lettres en bois foncé. Elle pose X. Le X compte triple 2 fois, dit-elle avec détachement. 64. Anna pose roture, 14. Molly pose yen, 90. Anna aligne asthme, 16. Molly pose U, 74. Alors, Anna renverse la table. Molly la regarde attristée, ébahie. « Je ne veux plus jouer, dit Anna. Pas avec toi. Je ne joue plus. Vois-tu, nous ne jouons pas au même jeu. Tu accumules les points. Où sont les mots? Mais qui se soucie des mots? Maintenant, elle est en larmes. Même au Scrabble, qui s'en soucie? N'est-ce pas un comble? C'est chacun pour soi, la gagne, la compétition, les additions, la bataille. Où est la beauté du geste? Qui se préoccupe de la courbe des sons? Où est le sens du jeu commun? Tu es très emmerdante, dit Molly. L'écrivain est un espion tapis au milieu des siens. Il trahit, c'est son caractère. Il persévère dans son être. Tel le scorpion monté sur le dos glissant de la crédule grenouille qui la pique et la tue au milieu de la rivière. Obligation de dire. Faire de sa vie la matière de son œuvre. Comme le peintre qui, son carnet d'esquisse à la main, attrape au vol une grimace, une démarche, la courbe d'une joue, un regard, une ligne de crête, un coucher de soleil. Le dessinateur s'entraîne sans cesse, l'écrivain aussi. Anna s'est entraînée à mettre en mots, en phrases, sans clichés, sans redites. Les espoirs brisés, les amours trahis, les ironies du sort, les amitiés trompeuses, les ambitions ridicules, les appétits sordides, la fatigue de vivre et les désillusions. Ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. Elle a tenté de dire d'une manière neuve que le roi était nu, et la reine aussi. L'amour, la mort, la politique, la laideur des sentiments, les poils pubiens, les petits gestes ordinaires et sadiques, la méchanceté, ou simplement ce que nos existences recèlent de trop ennuyeux, elle a tout fourré dans un livre qu'elle a intitulé « À bas la mort », le contraire de « Viva la muerte ». Un titre probablement pompeux, juvénile, elle ne le referait pas aujourd'hui, donner un nom pareil à un livre. Vaine bravade. Un peu plus loin. En littérature, la colère est bonne conseillère. Et Anna n'a jamais cessé d'être en colère. À adorer écrire ce qu'il ne faut pas, dire les choses qui sont derrière les choses, ouvrir la porte interdite qui mène aux coulisses, ricaner sottement devant les mensonges utiles. Le tissu social de la bienséance et des conventions lui serre le cou comme les écharpes qu'on est obligé de mettre quand il fait froid. Si elle ne crache pas le morceau, elle meurt. En le crachant, elle est morte aussi. Elle a cru que les choses étant dites, les taux se desserreraient. Elle a aimé marcher sur les pelouses interdites, prendre le métro sans payer et écrire des histoires. Pourquoi écrire si cela ne dérange rien ni personne? Les mots sont les armes de la pensée libre. Il faut s'en servir. Sinon, ils rouillent. Sinon, elles meurent. Le silence, le règlement, la censure sont les principaux moyens de l'oppression politique, familiale, économique. Elle l'a pensé, elle l'a dit, elle l'a écrit et n'en a peu mesuré les conséquences, le prix. Elle s'est efforcée pourtant de crypter son histoire, de ne faire de mal à personne, de ne pas faire de mal à une mouche. S'est efforcée de ne pas fâcher les camarades de lutte, ni le reste de la famille, ni personne en vérité. Elle a masqué les noms, combiné les destins, omis de citer diverses informations calomnieuses. À bas la mort est un roman. L'autocensure s'y déploie. Pas de méchanceté, ou point trop. Pas de désordre. Du caviardage, des ellipses, de la discrétion romanesque. Des déplacements, de la tambouille, un miroir en bison, le long des chemins creux de la vie.
Merci. Alors, je crois savoir que la classe de première L qui est venue aujourd'hui est tenue à écrire un texte de manière originale pour se présenter.
Nous, étudiants en goguette, constituant un effectif nommé Première, se passionnant pour Hugo, Rimbaud, Camus, Maupassant, Ionesco, Racine, Beckett, Diderot, de Musset, Brésac, Proust, Sand, Montesquieu, Pérec, Rousseau, Ronsard, Cocteau et autres grands écrivains. Au nombre de 19, dont permettez que rapidement nous effectuions un décompte pour nous ardu, car nous abhorrons cette science qu'on nomme mathématique, dont 14 personnes de sexe féminin et 5 garçons, considérant qu'une de nos camarades s'en est retournée dans son pays d'origine où sautent des kangourous, et que nous comptons parmi nous deux autres étrangères, américaines et indonésiennes, nous étudions pour une majorité cet art cinématographique qu'est de faire naître des rêves sur un écran. Nous sommes aussi tous désespérants aux yeux de professeurs assidus d'EPS quand vient ce fameux moment tragique, un match de sport se jouant avec des mains, un tissu suspendu troué de petits carreaux et un objet sphérique qui autrefois fut fabriqué en panse de brebis. Nous pratiquons un certain nombre d'idiomes, dont ceux des adeptes de chorizo et de corrida, des buveurs de thé habitant une terre entourée d'eau, de mangeurs de pâtes et de pizza et d'amateurs de choucroute germanique. Mais nous n'admettons aucun stéréotype, bien sûr. Et pour finir, nous décrire sans user jamais du 12e caractère de cette énumération de signes qui permettent d'écrire est une manière comme une autre de nous présenter.
Qui veut se lancer pour la première question ?
Bonjour.
Et mes camarades et moi-même avons tenu à savoir quels étaient vos auteurs préférés et s'ils étaient une source d'inspiration.
Très bonne question. Donc mes auteurs préférés sont une source d'inspiration. Ils varient selon les jours, forcément, parce qu'on ne peut pas avoir tous les jours les mêmes auteurs préférés. Donc pour aujourd'hui, ce sera Kafka, Proust, Virginia Woolf et une Anglaise que vous ne connaissez pas, on ne sait jamais, qui s'appelle Sylvia Townsend-Warner. Qui a écrit un roman magnifique, enfin plein de romans magnifiques, mais entre autres un qui s'appelle Laura Willows, qu'on trouve en collection Folio, je pense. Pérec en fait aussi partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et puis peut-être aujourd'hui, particulièrement, en ce moment, j'aime énormément deux Grossman, Vassili Grossman et David Grossman. Et puis j'ai une passion immense pour Isaac Babel. Et puis on va s'arrêter parce qu'après je vais même Et puis j'ai aussi une amie écrivain lyonnaise qui s'appelle Florence Sévos qui vient à Lyon aujourd'hui, enfin qui arrive aujourd'hui, avec laquelle il y a une rencontre avec Zerouya Chalef vendredi soir, et dont je pense que c'est un écrivain miracle. Mais Zerouya Chalef aussi pour moi est un très grand écrivain.
J'aurais voulu savoir en fait comment est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous écrivez en cherchant, ou est-ce que l'inspiration vient toute seule
Alors je sais, parce que je sais pour l'avoir lu dans d'innombrables journaux d'écrivains, que la meilleure méthode consiste à s'asseoir 2 heures par jour, de préférence à la même heure, tous les jours de la vie, et d'attendre que ça vienne. Et alors ça vient ou ça vient pas. Ça c'est la bonne méthode. Je ne l'applique pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais de fait, j'ai jamais trouvé. Je ne sais pas quelles sont ces fameuses 2 heures. Peut-être je vais un de ces jours, elles vont. Mais pour le moment, pendant très longtemps, moi, j'ai des enfants, je travaille, etc. Donc, le matin, il faut aller à l'école, après au boulot. Donc, j'avais pas les 2 heures. Et puis, je suis pas vraiment quelqu'un du matin. Et je ne suis pas non plus tellement du soir. Je ne suis pas totalement quelqu'un du midi. Donc, trouver les 2 heures, c'est pas tellement évident. Mais au bout du compte. Je crois que le travail se fait plus ou moins n'importe comment, et je crois que je suis toujours plus ou moins en train d'écrire, et, sauf quand je suis trop déprimée, mais sinon. Donc bon an mal an, ça finit par se faire. Ouais. Là, je vois bien, je suis en train d'écrire un... Je suis en train d'écrire un livre, et donc ce livre, bah, tout ce que je vis, ce que je traverse, la campagne qu'on a traversée avec Amélie Lampenant, tout ça, j'y pense, quoi. Et ça vient, ça s'agglutine, ça se met dedans, quoi, en fait. Mais j'ai jamais... par exemple, j'ai fait des résidences d'écrivains, comme tout le monde, alors mais là, vous êtes punis, vous êtes dans votre chambre... quand est-ce que je peux sortir, là je peux pas sortir, là je reste, et c'est pas du tout, il y a un truc de liberté, l'écriture c'est très sauvage en fait, c'est très insolent, ça, l'inspiration se présente certainement pas quand vous l'attendez, donc, mais en même temps c'est sûr que si vous asseyez jamais derrière une table, à la fin de vos 60 ans vous n'avez pas énormément de livres, donc ça dépend. Mais je cherche pas, dans le sens, pour répondre à la question, je suis pas... par exemple, si je prépare un cours ou une conférence, là, c'est différent. Je m'assois, je rassemble mes documentations, je fais mes recherches, je lis des livres, je prends des notes, je construis mon cours, ma conférence. Ça, c'est un travail qui a son canon, quoi, et ses méthodes, comme quand je passais des concours, comme ça. Mais... après, vous ne pouvez pas écrire un roman ou comme vous passez un concours ou comme vous écrivez un cours ou une conférence. Vous êtes obligé de laisser... c'est très compliqué parce que en même temps, il faut laisser l'oxygène, l'air, l'inconscient circuler, sinon il n'y a pas de création. Et en même temps, il faut un cadre. Donc, c'est ce jeu avec soi-même qui consiste à être en dehors de soi-même et quand même dedans, qui devient d'ailleurs, ce qui est, d'ailleurs, vous l'avez bien compris en m'écoutant, qui devient une façon d'être, une force, enfin, comme pour tout le monde, on finit. Donc maintenant, je suis cette personne-là qui passe son temps à être en dehors d'elle et à regarder ce qu'elle fait tout en cette espèce de... C'est ce que disait Proust, hein. Il disait le propre d'un écrivain, c'est finalement de passer sa vie à sortir de lui-même pour regarder le petit être vivant qui circule, quoi. Ou qui ne circule pas. Mais, oui.
On parlait de Camus tout à l'heure et je pensais, quand vous parliez là, on parlait aussi de la solitude de l'écrivain. Je pense à une nouvelle, Jonas ou l'artiste au travail, et où à la fin on ne sait pas si ce peintre a écrit sur sa toile solitaire ou solidaire. Mmh. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on trouve ce juste équilibre en tant qu'écrivain ? Entre la solidarité et la solitude.
C'est une vraie question qui se pose tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, je me disais avec horreur, quand vous avez dit, Céline, que j'étais une militante formidable de Bibliothèque sans frontières, c'est tellement une mauvaise militante de Bibliothèque sans frontières. Enfin,
vous en parlez en tout cas, vous la représenter en un sens.
Là, je sais pas, en arrivant ici, j'ai vu qu'il avait envoyé 3 messages pour me dire qu'il y avait un conseil d'administration cet après-midi, donc je vais être lourdée. Mais en même temps, je trouve ça, quand on a commencé, quand Patrick Veil m'a contacté il y a 8 ans ou 9 ans, pour me dire je vais fonder une association qui s'appellera Bibliothèque sans frontières de solidarité avec les gens qui sont victimes de catastrophes naturelles ou pas naturelles, et pour apporter des livres dans des bibliothèques dévastées dans des pays aussi variés que Haïti ou la Géorgie ou la Syrie ou la Jordanie, etc., etc. C'est trop ça génial, mais le fait est que je ne suis allée ni en Jordanie ni en Haïti, donc je suis nulle, donc peut-être finalement je vais aller, mais je sais pas. Et ils ont, là on a mené toute une campagne pour les bibliothèques par exemple, que je trouve vraiment très bien, pour dire que les bibliothèques devraient être plus ouvertes, il y a des lieux plus de vie où on peut faire plus de choses, des lieux de circulation, je trouve ça essentiel, de relier. Là ils ont mis au point un truc qui s'appelle une Ideas Box, qui est une boîte qui a été dessinée par Philippe Stark, et à l'intérieur de laquelle il y a des livres, et puis des ordinateurs, et puis des méthodes pour transmettre, former aux mathématiques les premières L récalcitrantes qui traînent partout. Et c'est vachement bien. En l'occurrence, c'est plutôt Patrick Veil qui fait tout, et moi, pas grand-chose.
Mais justement, la question de l'équilibre entre être solitaire et solidaire est très intéressante. Dans votre roman, on a une espèce de flux de conscience qui s'empare des personnages dans l'écriture, donc on est à l'intérieur d'eux, etc. Et puis parfois, vous employez le « nous ». Vous dites, soudain, on a une phrase, mais c'est très rare, c'est à travers vous, on va avoir 3 occurrences, « nous pleurons de rage, nous sourions ». Mais c'est qui ce « nous » ? Qui incluez-vous dans ce « nous » ?
C'est ouvert. portée libre. Non, c'est comme faire surgir le jeu. C'est le nous qui inclut le lecteur, je crois aussi. Hein.
On est happé par.
Je crois, enfin j'espère.
Oui, oui.
C'est ça l'idée.
Bonjour.
Bonjour.
Même si vous en avez déjà un peu parlé, on se demandait quelle est d'après vous la place de l'auteur dans la société, parce que vous êtes éditrice mais aussi auteur, et donc d'après vous, quelle est la place de l'auteur?
Est-ce qu'il sert à quelque chose? Hein? Est-ce qu'il sert à quelque chose?
Pas tellement. En fait, il n'y a pas de place. C'est les livres qui importent. Moi, je suis pour l'effacement des auteurs au profit des livres. Je trouve que les écrivains en tant que tels, Mélanie était un écrivain, était très chiant, par exemple. L'écrivain en tant que tel n'est pas un personnage particulièrement. Intéressant, c'est quelqu'un qui est traversé, donc c'est ce qu'il offre aux autres qui est intéressant. Je comparais au boulanger, pas le boulanger, beaucoup plus utile évidemment, mais la place de l'écrivain, il y en a pas. Enfin, je pense qu'il doit se sentir une grande responsabilité. Parce que on ne peut pas faire autrement, et en même temps aucune responsabilité. Donc tout est très à double tranchant. Aucune responsabilité, puisque on rejoint cette question du solidaire, solitaire dont vous parliez. Mais je suis absolument contre la starisation des écrivains, parce que je trouve ça ridicule. De toute façon, je suis contre la starisation de qui que ce soit. Je trouve que ça va contre la littérature, ça va contre le partage, ça va contre la lecture. Moi, je suis pour qu'on lise à haute voix, qu'on lise de tout. On s'en fout, en fait. Oui, c'est Jean Rhys, donc, que j'ai commencé à citer, mais je me suis arrêtée en route. Donc, il y a aussi une femme que j'aime énormément. Elle disait qu'on est écrivain à certains moments. D'ailleurs, Proust dit ça aussi. On est écrivain quand on est en train d'écrire. Mais le reste du temps, moi je suis Geneviève, je me promène pas. Ça n'a pas de sens. Quoi. Je suis pour partager ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'éprouve, ce que je pense avec toutes les personnes qui souhaitent le partager avec moi. Mais en tant que tel, disons que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Forcément, il y a une fonction de témoin. Je prends un autre exemple, un écrivain que j'aime énormément qui s'appelle Isaac Babel. Isaac Babel, il est un jeune garçon à Odessa en 1908 ou 10, je ne sais plus. Et il va voir Gorky et il lui dit, voilà, je veux écrire, j'écris. Ma mère veut que je sois violoniste, mais moi, le violon, ça, je suis nulle. Et Gorky lui dit, mon vieux, quand tu auras vécu, vu beaucoup de choses, on verra ce que tu es capable d'écrire. Et donc, alors il s'engage, c'est vraiment un intello, pur intello, avec des lunettes et pas du tout violent. Et il s'engage dans une colonne de révolutionnaires. Il part faire la guerre contre les Blancs, je ne sais plus où, là-bas, vers Brest-Litovsk. Et là, il est avec la colonne de Bouzieni, hein, cette armée révolutionnaire en 1918-1920. Et il regarde tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est horrible. C'est-à-dire que les Cosaques se comportent, les Cosaques rouges, hein, moyennement bien. C'est-à-dire qu'ils violent les femmes, ils trucident les animaux dans le meilleur des cas, ils tuent les paysans. Enfin bon, ensemble, c'est assez moche. Quoi. Et c'est quand même la révolution, mais c'est quand même moche. Et donc, ils racontent tout ça. Et en particulier, ils se moquent beaucoup du général, parce qu'il y a de la moquerie. Vous avez remarqué que je suis assez moqueuse. Et je pense que la moquerie, l'insolence, le ricanement, la légèreté est constitutionnelle du rôle de l'écrivain. Commence par se moquer, déjà ça c'est pas mal. Et donc il se moque de Bouzieni, et manque de bol, Bouzieni est ministre de l'Intérieur 20 ans plus tard, et Isaac Babel est arrêté, assassiné, et on ne le revoit plus jamais. Donc il y a un petit danger quand même, quoi. C'est un peu le détail de ce que je raconte est peut-être imprécis, et les gens que ça intéresse vraiment, je leur conseille d'aller vérifier les faits qui sont pas exactement ça, mais le fond de l'affaire, c'est-à-dire il se moque de Bouzieni, et en particulier Bouzieni lui a Je me souviens, il y a une scène qui ressemble à une scène de Bergman dans L'œuvre du serpent, qui est un très beau film de Bergman. Et comme vous êtes en classe de cinéma, je suppose que tout le monde le connaît. Et il y a une scène où on lui écrase les lunettes, par terre. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, le fait qu'on attrape les lunettes de quelqu'un et qu'on les écrase par terre. C'est un geste fasciste un peu par essence, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Parce qu'évidemment, la personne à qui on a arraché ses lunettes et on les a écrasées, c'est une forme, façon d'être désarmée qui est assez spéciale, hein, quand même. Bref. Et donc, il raconte ça dans une de ses nouvelles de ces années-là. Et donc, Bouzzini, évidemment, quand il la lit, ça ne lui a pas du tout plu, quoi. Et c'est un peu, j'en parle indirectement. Évidemment, quand on écrit, on ne peut pas s'empêcher de... Si on dit ce qu'on voit, forcément, ce qu'on voit ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Parce que chacun, si tous les gens qui sont dans cette salle écrivaient comment ils ont vécu cette scène qu'on vit depuis 10 heures du matin, détail par détail, et qu'on les lisait, tout le monde serait assez étonné de ce que chacun a vu, entendu, remarqué, décrit. Et ça ne ferait pas forcément plaisir à tout le monde. Donc il y a dans cette intériorité mise à l'extérieur, forcément quelque chose qui est dérangeant, et c'est pas forcément méchant, mais en tout cas éventuellement dérangeant, puisque mais c'est transformé en fiction, c'est pas pour dire du mal. Et par exemple, il y a quelques jours, on parlait avec Arnaud Desplechin de son film, que donc, puisque vous êtes une classe de première L, option cinéma, si j'ai bien compris, vous avez peut-être déjà vu Trois souvenirs de ma jeunesse. En tout cas, si vous l'avez pas vu, j'espère que vous le verrez, parce que c'est un très très beau film. Et donc dans le film, les parents, la mère est psychopathe et elle se suicide au bout d'un quart d'heure de film, et le père bat son fils. Donc le réalisateur était très inquiet, il a écrit à ses parents, mes chers parents, surtout, vous avez remarqué, maman, que tu es vivante, donc tu n'es pas une psychopathe qui est morte, pour commencer. Et d'autre part, papa, tu sais très bien que tu ne m'as jamais battue, donc il n'y a pas de problème. Et c'est des choses comme ça. C'est-à-dire, moi, je passe mon temps à m'excuser auprès de ma famille. Enfin, mes enfants, de toute façon, m'ont déjà dit que les comptes seraient réglés un jour, mais que les droits d'auteur devraient leur être versés, évidemment. Mais... Enfin, comme il y en a une qui est éditrice et l'autre qui écrit, bon, ça va, quoi. Elles ont de la marge pour se venger, je veux dire, en fait. Je veux dire, elles le font déjà.
Alors, justement, vous venez de parler du film d'Arnaud Desplechin. Il présente une image des années 70. Dans son film, vous en présentez une aussi dans votre livre.
Un peu plus tard, lui, quand même, non?
Oui, pas beaucoup plus tard. Ouais. Pas beaucoup plus tard, je crois. Enfin, disons une image d'une certaine époque de la jeunesse. Comment vous les situez l'une par rapport à l'autre? Et est-ce que, s'il y a des différences et lesquelles, est-ce que dans un cas, c'est un traitement par l'écriture et dans un autre cas, un traitement par l'image? Est-ce que ça tient simplement à cela?
Ben, je pense qu'Arnaud Desplechin est vraiment un cinéaste extrêmement écrivain. Et moi, je suis un écrivain extrêmement cinéaste. Donc, dans son film, Trois souvenirs de la forme même, de Trois souvenirs de ma jeunesse, même la référence au flux de conscience, à Joyce, etc., c'est vraiment très près de la littérature. Et le chapitre dans le livre, le deuxième chapitre, où on voit le jeune Paul partir en Union soviétique pour aider des dissidents, et la manière dont il donne son passeport pour aider je spoil grave, en fait.
N'en dites pas plus.
Voilà. C'est très près de Dans les yeux des autres, je pense. C'est exactement cet esprit-là.
D'accord.
Vous parlez de contes à rendre entre parents et enfants, ou enfants et parents. Et je suis un petit peu étonnée qu'ici, on n'ait pas parlé de votre livre Une année avec mon père, que j'ai trouvé d'une sensibilité, d'une finesse. Et là, il n'y avait pas de contes à rendre.
Non, mais je n'ai
pas senti ça. Oui. Mais j'ai senti une souffrance de part et d'autre qui était assumée, qui était... Ah, c'était extraordinaire. Et je me demande si vous l'avez écrit pendant cette année ou après.
Après. Oui, j'avais aucune... Non, je l'ai écrit. Je l'ai écrit après. Je n'avais pas de carnet, même, d'ailleurs.
Ah, oui. Tout en ménageant encore la sensibilité, la fierté du père et... Malgré toute cette souffrance qui envahissait, enfin qui. C'est étonnant, lisez-le.
Mais c'est ce livre-là qui m'a fâché avec ma famille, donc vous voyez comme quoi c'est paradoxal. Ouais. Il n'y a plus personne ne me parle depuis. Alors je suis obligée de venir à Lyon pour parler à des gens.
Et j'ai commencé des comptes à rendre.
Non, non, c'est juste que le fait... D'ailleurs, en plus, je le comprends. Je parle de la dernière année de vie de mon père après un accident de voiture. Et donc, forcément, pour... le reste de ma famille, en particulier mes frères et sœurs, c'est de quoi. Comment tu oses prendre la parole ce type que tu racontes n'a rien à voir avec mon père. Mais c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Moi, je dis, écoute, écrivez votre livre. Non, mais en même temps, j'ai rien à dire. Je suis d'accord pour qu'elle soit fâchée. Bon, voilà, je suis pas d'accord, mais c'est pas rien. Quoi. C'est... Et puis, il y a aussi cette histoire du scorpion et de la grenouille aussi. C'est que ce que mes filles, d'ailleurs, ont fini par comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand vous êtes devenu écrivain, vous êtes écrivain. Donc, c'est ça que vous faites. Et vous pouvez pas faire autrement et autre chose que ça. Enfin, vous pouvez arrêter. Mais sinon, vous ne pouvez pas ne pas le faire comme vous le sentez. Vous n'avez pas envie de faire. Moi, j'ai jamais envie de faire du mal aux gens, pas du tout. C'est franchement, c'est pas du tout mon truc. Hein. Mais forcément, dans même ce que la manière de raconter ou ce que je raconte, je vais. Par exemple, il y a une scène dans Les yeux des autres. Il y a qui se passe au bord de la mer. Et donc Anna se trouve avec une autre femme et elles vont se baigner. Il y a toute une scène un peu, je sais pas comment dire, ironique ou sarcastique sur le vieillissement, etc., etc. Et en fait, forcément, il y a des gens qui se sont reconnus, enfin des gens. Et d'ailleurs, il y a une de mes filles, quand elle a lu ce chapitre, elle m'a dit « Ah, non, t'es malade, qu'est-ce que t'as écrit ? T'es complètement folle, ma pauvre. » Et je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit « Mais enfin... » Tout le monde voit très bien.
Qui c'est ?
Je dis, mais ah bon, mais pas du tout, mais absolument pas, mais comment ? Mais non, mais je t'assure. Mais si. Donc j'ai dit non, pas du tout. Je d'ailleurs, sous la torture, je ne l'avouerai jamais et tout. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, mais tout le monde a très bien. Mais d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'autres, n'a pas tellement d'importance. Et je pense que c'est comme une espèce de petit mécanisme enfantin, presque. C'est aussi que. Quand vous écrivez, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire.
J'avais une petite question sur les prénoms, le choix des prénoms. Des prénoms qui reviennent régulièrement dans certains de vos livres. On trouve une généalogie des prénoms, surtout des prénoms féminins. Je voulais savoir comment vous les choisissez, quelle importance.
T'as une importance énorme. Ouais. Très grande importance. Et probablement, j'ai choisi très mal. Mais il s'impose en fait à un moment donné. Nook, c'est Nook, et d'où ça vient, je pense qu'il y a, enfin j'en sais rien, après c'est plutôt aux critiques ou aux analystes de texte de trouver d'où ça vient, le pourquoi du comment. Un jour Nook s'impose, ou Olga, ou Monel, je sais que c'est un personnage de Marcel Schwab très important pour moi, qui est vraiment l'incarnation de l'enfance et de la liberté, donc le personnage s'appelle Monel. Erreur gigantesque d'un point de vue du marketing, parce que les Monel, il n'y en a nulle part, et donc pour Molly et Anna, encore là, je suis assez. Ça va. Souvent, les personnages ont des noms un peu étrangers. Ils s'appellent pas. Ils n'ont pas des prénoms bien de chez nous, en quelque sorte. Et sans doute, ça, c'est comme un petit marquage du fait que moi, j'ai des origines très variées. Et donc, ça vient, même si je m'appelle Geneviève, ce qui est c'est correct. Donc, forcément, ça doit se faufiler par là.
Molly, quand même, c'est le verbe mollir.
C'est vrai, peut-être. Pourtant, elle ne mollit pas du tout.
Non, mais justement.
Pour parler de cette question, justement, Mélanie est étrangère. Enfin, vous faites allusion à ses origines. Et puis, on retrouve aussi dans votre roman.
On dit qu'elle est arménienne.
Elle est arménienne.
Mais en fait, c'est assez curieux parce qu'on dit qu'elle est arménienne, mais plusieurs personnes. J'ai fait un débat où il y a une dame qui m'a dit mais c'est vraiment la rescapée des camps typiques. Je dis, ah bon, alors très bien. Mmh. Peut-être d'ailleurs, peut-être typique, je ne sais pas si ça existe. Mmh. Mais donc, En tout cas, c'est une survivante, une rescapée, c'est certain, mais deux choses complexes, en fait.
Et pourquoi aussi cette influence de, je ne sais pas, des prénoms un petit peu slaves, russes, gros, enfin, des auteurs aussi que vous aimez à citer? Pourquoi y a-t-il un esprit particulier que vous trouvez chez eux?
C'est certainement, on en a parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a, pour moi, il y a une importance de la patrie de la littérature. Pour moi, c'est quand même la Russie, même si elle a pu passer, beaucoup de Russes finalement sont arrivés aux États-Unis, de Juifs russes sont arrivés aux États-Unis et c'est devenu des grands écrivains américains aujourd'hui. Mais le fait est que je pense qu'il y a un foyer de littérature là, qui va avec une certaine inaptitude à la vie par ailleurs, mais de Babel à Tchekhov, je parle de Mila Ulitskaya ou Anna Akhmatova ou Svetaïeva, c'est des soutiens gigantesques.
Alors vous disiez aussi qu'en littérature la colère est bonne conseillère. Vous, donc dans ce livre Dans les yeux des autres, on retrouve aussi dans votre essai La marche du cavalier, je vous cite, j'écris ce livre sous le coup de la colère ou sous le coup du chagrin, et vous définissez entre guillemets, comme nous avons commencé, comme une femme un peu en révolte aussi. C'est ce qui vous nourrit aussi en même temps, cette révolte, cette colère?
Oui, parfois je trouve ça ridicule, mais oui, je pense quand même qu'il faut un moteur, hein, comme le mien n'est pas d'entrer à l'Académie française, donc c'est plutôt de dire au monde, de dire ce que j'en pense, quoi, de le raconter ou de le décrire. Ça va avec de la colère, parce que ça va de soi, parce que l'injustice, comme je le disais tout à l'heure, et puis aussi quand on écrit. Je ne sais plus qui disait en se moquant des intellectuels que les intellectuels croient toujours qu'ils peuvent transformer le monde avec leurs mots. C'était un homme politique qui disait ça, je ne sais plus quand j'ai entendu ça, peut-être Henri Guénaud disait ça. Et oui, c'est vrai, de toute façon, les écrivains intellectuels sont des gens qui ont la bêtise ou la folie de croire qu'ils peuvent changer le monde avec des mots, ce qui est évidemment débile. Mais en même temps, c'est débile, mais de temps en temps. Ça se passe, quoi. Donc, c'est quand même. Et je me souviens très bien, par exemple, pour Week-end de chasse à la mer, j'ai eu l'idée, le livre m'est apparu, comme une apparition, dans un square un jour d'hiver, en janvier, un dimanche de janvier, le pire du fond du trou du dimanche de janvier. C'était un square vers la gare du Nord à Paris. Et j'étais là avec ma fille dans sa poussette, et j'étais malade, et le square était complètement glacé, le tas de sable était glacé, il n'y avait personne. Et je me suis dit, mais c'est, alors voilà, ça c'est ma vie. C'est vraiment un jour je le dirai, quoi. Mais un jour je raconterai ce square, et ils verront ce qu'ils verront. Ils ont vu.
Alors on trouve aussi dans votre roman beaucoup d'allusions à des musiques. Je pourrais citer par exemple le chant des Partisans, bien sûr, la chanson du condamné à mort, la Lega, une chanson de lutte italienne. Est-ce que vous-même vous nourrissez de musique comme vous le faites en fait d'impression, comme vous nous avez raconté avant d'écrire pour
Il y a des. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est certain que les époques s'incarnent dans des chansons, des musiques. Moi, si j'entends le chant de la Révolution portugaise, Grandola Villa Morena, par exemple, ça m'émeut instantanément. C'est dans les cellules, on le sent tout de suite, ça se réveille, ça fait un effet gigantesque. Le chant des Partisans, le chant des Marais, les chants italiens, des paysannes, des couilles, c'est des chants populaires, mais c'est aussi les chansons d'Aristide Bruand ou les chansons de Macorlan, ou les chansons de Brassens. La chanson ramène, les chansons que vous écoutez aujourd'hui, elles inscrivent, quand vous les écouterez dans 25 ou 30 ans, la chanson, elle englobe un morceau d'espace-temps à l'intérieur. C'est la force des chansons.
Par rapport à la révolte, est-ce que écrire, ça permet de faire partager sa révolte aux autres, ou d'apaiser la sienne propre, voire les deux?
Je ne sais pas du tout ce qu'on partage. On ne peut pas le savoir. Par moment, on aperçoit quelque chose qui est partagé ou pas dans une. Mais comme je le disais tout à l'heure, je crois que il y a une part de dons ou d'instincts ou de conditions qui font qu'un jour vous êtes mis à écrire pour une raison ou pour une autre, et puis vous avez persévéré ou pas. Évidemment, si vous avez persévéré tous les jours pendant 40 ans, ça finit par... c'est juste votre être, c'est comme un arbre, quoi. C'est ça que vous êtes, vous faites des cerises ou des pommes, mais vous en faites plus ou moins, des bonnes ou des pas bonnes, sur les années, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on est, quoi. Et donc, j'espère vaguement que ma forme de sensibilité, j'espère que quelqu'un qui a lu une année avec mon père, je l'ai quand même écrit un peu pour ça, ça partagera ça et donc vivra moins de manière moins seule finalement des échéances qui sont quand même assez partagées par tout le monde. Et quand j'ai commencé à m'occuper de livres pour adolescents, je trouvais que souvent, quand on a lu des livres qui parlent des choses qu'on traverse, c'est un vrai... ça joue dans les deux sens. Quand vous lisez un livre qui parle de choses que vous avez vécues, vous vous sentez moins seul tellement vous n'êtes pas le dernier déchet de l'humanité. Il y a d'autres gens qui ont traversé. Et à l'inverse, quand vous avez lu tel ou tel ou tel livre et qu'il vous arrive telle et telle chose, vous la vivez autrement aussi. Donc ça se nourrit, ça se réactive d'autres choses. C'est vraiment un peu des clichés ce que je dis, mais c'est vrai que si la littérature, la peinture, la musique ou le cinéma ont plus d'intérêt que la boulangerie, et pourquoi on ne fait pas tous la boulangerie, parce que c'est, par exemple, ou des restaurants, c'est que ça transforme ce qu'on vit quand même. Le livre que moi d'avoir vu, puisque je l'ai vu avant-hier, donc c'est pour ça que j'en parle, Les trois souvenirs de ma jeunesse, ça transforme ça transforme des même presque des souvenirs de ma propre jeunesse, en fait. Donc ça les réactive et ça interroge mes sentiments amoureux. Donc ça transforme ce qu'on vit, ouais. Donc ça le partage.
Je voulais évoquer avec vous un épisode dans votre roman Toujours dans les yeux des autres, qui est un petit peu doux amer. C'est celui en fait où Anna revient à la mutualité, donc le haut lieu des luttes ou en tout cas des meetings de sa jeunesse, et il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que le lieu a été complètement transformé, qu'il manque 55 sièges. C'est un détail très intéressant dans la manière dont vous le racontez.
Péricain, en l'occurrence.
Est-ce que vous êtes revenu vous-même à la mutualité, et pourquoi avoir raconté cet épisode après tout?
Parce qu'en fait, donc il y avait un épisode, je voulais beaucoup, parce que le premier texte que j'ai écrit, le premier texte politique que j'ai écrit, je voulais écrire un roman qui se passerait entièrement à la mutualité. Mm-hmm. C'était un concentré, un condensé très intéressant, et qu'en plus il y a très peu de romans, je trouve, qui racontent des moments comme ça, très très intenses, très très paradoxaux, avec des discours et puis des gens qui vivent des choses dans la salle qui n'ont rien à voir avec les discours d'ailleurs, etc., etc. Donc ça m'intéressait beaucoup de faire ça, et donc j'en ai écrit plein de versions. C'était jamais très très bon, mais pendant 30 ans, hein, donc j'ai vraiment beaucoup de... Et dans ce livre-là, je savais qu'il y avait une scène de meeting à la mutualité avec les garçons qui font le service d'ordre, les blousons, les gens qui parlent, les orateurs, blabla, etc., etc. Et la musique, et les drapeaux, Et puis, donc, forcément, il fallait que je refasse du repérage. Donc, je suis retournée à la mutualité. En fait, je n'y allais jamais. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je ne le faisais pas. Les semaines passaient, les mois passaient, je n'y allais pas, il fallait que j'y aille. Un beau jour, j'y suis allée, donc, un jour très froid d'ailleurs, comme c'est là, je crois. Et quand je suis arrivée, il s'est passé ce qui se passe, on m'a dit, vous ne pouvez pas entrer. Je ne peux pas entrer. Donc j'étais mais sidérée, parce que c'était privatisé. Mais c'était tellement dingue que ça soit privatisé que j'en revenais pas. Et donc j'ai compris effectivement que ça avait été racheté par cette société E.G. Evans, qui en fait est Big Malion. Donc après, en plus, ça faisait un espèce d'écho rigolo, quoi, parce que c'était bien nous, c'était bien l'air de où on est, et ils organisaient des événements, ce qui évidemment ça me faisait marrer ce mot d'événement, quoi. Qu'est-ce que vous faites? J'organise des événements. Mais si vous organisez un événement, il n'y a pas d'événement puisque vous l'organisez. Donc c'est déjà dans le mot, il y a un truc qui est vraiment drôle, quoi.
Merci Geneviève Pézard.
Je vous en prie. Merci Céline de cette intervention.
Alors merci à vous d'être venue. Merci de votre générosité. Je tiens également à remercier bien sûr le personnel de la médiathèque de Rérieux, celui de la médiathèque de Trévoux, les bénévoles aussi qui nous ont lu aujourd'hui ces passages, ainsi que les lycéens du Val-de-Saône et leurs professeurs qui nous ont rejoints. Alors je n'oublie pas bien sûr la Villa Gillet, sans laquelle la rencontre n'aurait pas été possible, qui m'a fait confiance pour la modération. Merci à vous également d'être venus aujourd'hui. Merci à tous.
Merci. Merci. Bonne journée.